Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Certains jours, l'horizon s'assombrit. En ces temps de grâce 2025, je m'en vais essayer de vous dérider un petit peu, si je peux, les zygomatiques. C'est maintenant ou jamais. Je m'en vais vous causer du Béarnais, le vrai. Henri IV de la lignée des Henri, le plus célèbre, le plus populaire des rois de France. Le Vert Galant, on l'avait surnommé. Parlant un jour de son formidable joujou des demoiselles, il prétendit sans rire que jusqu'à l'âge de 40 ans, il avait toujours cru que c'était un os. Oui, qu'on appelait aussi l'os de Dionysos. Fils d'Antoine de Bourbon, qui adorait le bénitier de Calcif, et de Jeanne d'Albret, reine de Navarre, et protestante jusqu'en haut des jarretières, Riton fut roi de France de 1589 à 1610, comme chacun sait. Mais n'anticipons pas. Le Béarnais, à sa naissance, ne ressemblait en rien au fils de Henri II. Des petits avortons incapables de soulever eux-mêmes leur biberon. Le papa de sa maman, Jeanne, son papy, bouffi d'orgueil, d'avoir un petit-fils futé comme les mouches, se serait écrié « Ma brebis a enfanté un lion !» En guise de biberon, il lui avait passé une gousse d'ail sur les labiales et fait goûter un gorgeon de Jurançon. Le petit, alors, en tendant sa coupe, proféra pour la première fois cette courte supplique qu'il adressa si souvent par la suite à ses maîtresses lorsqu'elles lui chatouillaient l'arquebuse. Encore. Il saccagea, dit-on, les tétons de 8 nourrices avant d'en trouver une, enfin, à son goût. Son étonnante carrière amoureuse le prouva assez. C'était un sacré goûteur de tétons. Mouflet, il reçoit une éducation plutôt insolite pour un futur monarque. Il court la campagne en se bigornant avec ses copains, qui sont pas plus nobles que vous et moi. Il déniche des nids de pie, il joue à papa-maman avec les bergères et rentre le soir à la casbah avec des trous pleins son falzard. Il se fait remarquer très vite, car parmi tous ses potes, il est le seul à avoir déjà joué du flageolet béarnais. De plus, c'est lui qui pisse le plus loin. Il a vraiment tout pour faire un bon roi. Nommé lieutenant général du royaume en 1560, il se retrouve au Louvre, où il fait poêler les courtisans en leur demandant pourquoi ils ont toujours l'air d'avoir avalé un pébroc quand ils discutent entre eux de la couleur de leur ruban. Plus tard, il pouvait passer aisément 18 heures d'affilée sur son cheval, sans en descendre, pour aller s'acheter des clopes. L'ennui, c'est qu'il faisait souvent la même chose avec ses maîtresses. Il n'était pas rare, d'ailleurs, que ces dernières, lassées, partent en quête de Jules plus reposant. Car avant la chasse et la guerre qu'il pratiquait assidûment, le plus favori de ses passe-temps demeurait incontestablement le bilboquet béarnais, à changement de vitesse. Il fut d'abord heureux, puis dérouilla un max avec une flopée de pétasses qui le cocufièrent avec un grand dévouement. La plus célèbre d'entre elles fut Gabrielle d'Estrée, dite la belle Gabi, à laquelle il adressait des bafouilles incandescentes. Annonçant son arrivée pour la semaine suivante, il demandait à sa Gabi de se garder bien d'astiquer son frifri en l'attendant, afin, disait-il, de mieux savourer ses fragrances naturelles. Il s'attacha les poils du cul et dépensa une fortune pour coucher dans son lit Henriette d'Entrague, dite la dévoreuse, qui lui fouettait le raisiné avec des décoctions aphrodisiaques et des tartines de gelée royale. Diplomate et rusé, homme de guerre habile, Durant son règne, il mit vaillamment le grappin sur la Normandie, l'Auvergne et le Poitou, entre autres. Jugeant que cet éparpillement de provinces faisait un peu désordre. En attendant d'être roi de France, il convole pour la première fois, en juste et pauvre noces, avec Marguerite de Valois, qui va devenir la fameuse reine Margot, dont tout le monde se souvient, surtout interprétée par Isabelle Adjani. Margot, qui toute jeunette qu'elle était, venait par un beau matin de se faire ravir le berlingot par son propre frère, Henri III. Ils étaient tous deux les mouflets de Catherine de Médicis et de Henri II. Ce qui ne l'empêchait pas, malgré tout, la mignonne, de passer ses après-midi dans le pajot du bel Henri de Guise, dit le balafré. Le roi Charles IX, l'autre frelot de Margot, et Catherine Médicis, sa dame, qui tenait le gouvernail de la France, accordaient beaucoup d'importance à ce mariage entre Margot et le jeune Henri, roi de Navarre. Ce dernier, de religion protestante, était censé, par cette union, se rapprocher des catholiques et pourquoi pas cesser de se fricasser la hure avec eux. Ce fut, hélas, une tragique cata. La môme Margot, qui avait le feu aux dentelles pour son guise, détestait ce rusto de Henri de Navarre qui tapait sérieux du saladier. Après une crise de nerfs carabinée, elle se laissa tout de même conduire à Notre-Dame pour le mariage. Sa mère, Catherine, avait d'ailleurs fait frapper pour l'occasion une médaille en or avec les initiales H et M entrelacées. Et une devise en latin gravée sur le bord, « La discorde réunie est éteinte par ce lien ». Il faudra tout de même, lors de la cérémonie, que le roi Charles IX fit un coup de coude dans les côtes de sa frelotte pour lui faire baisser la cafetière en guise d'assentiment, à défaut d'articuler le « oui » fatidique. Le soir des noces, où Margot chialait comme une femme de chef de gare le jour de congé de son époux, il semble que le zizi-pampan l'eût emporté tout de même sur la mélancolie. Bien que ce ne fût pas le grand amour entre eux, Margot, d'un ton léger, répondra plus tard au juge ecclésiastique qui lui demandait si le mariage avait été consommé. « Nous étions tous deux, au jour des noces, l'un et l'autre si paillards, qu'il était plus qu'impossible de nous en empêcher. » Quant à Henri, il répondit semblablement de son côté. « Jeunes tous les deux, et de tempérament gaillard, que nous étions, la reine et moi, pouvait-il en être autrement ?» N'empêche que, hormis les séances d'abricots en folie, Margot avouera bien plus tard « On a été 7 mois couchés ensemble » sans s'entreparler. C'était mal barré. Le jour de la funeste Saint-Barthélemy que Catherine fit déclencher par le bras de son taré de fils Charles IX, on étripa joyeusement tous les protestants et les autres qui avaient accompagné le futur Henri IV à son mariage. Ce dernier, qui eut très chaud aux miches ce jour-là, ne dut son salut qu'à sa promesse à Catherine et à Louis de se convertir au catholicisme. Charles IX lui avait laissé le choix. Messe, mort ou Bastille? Des milliers de cadavres s'amoncelaient au tournant de la Seine devant la colline de Chaillot. Henri n'eut aucune hésitation pour abjurer spontanément la foi huguenote, quelques jours après, agenouillée devant l'autel de Notre-Dame. À ses potes qui lui ont dit plus tard « Dis donc, Riquet, tu crois pas que t'as fait un peu fort en te convertissant? Es-tu bien sincère en devenant catho ?» Henri IV répondit goguenard. Il répondit quoi? Alors, j'attends. Bah, Paris vaut bien une messe. En fait, malgré son air enjoué, On se gourait bien qu'il était mort de trouille. Henri, forcé de rester à la cour au milieu de ses branques, se vit contraint par Catherine, sa belle doche, de faire partie de l'expédition royale menée contre la forteresse calviniste à La Rochelle. On lui demande ni plus ni moins de trucider les siens. Ces derniers, d'ailleurs, n'ignorant pas que Riton n'a abjuré sa foi qu'avec l'épée dans les rognons, demandent même, au-dessus des remparts de la forteresse, des nouvelles de leur roi de Navarre. Henri vise, dira-t-on, l'ennemi, avec son arquebuse à mèche. Mais nul n'est vraiment sûr qu'il l'avait allumé. Sacré Riton! Il ne le dira sans doute pas, mais il avait sûrement, par contre, une forte envie de se tirer. Ce qu'il fit. Il attendit tout de même 1575 pour s'enfuir, reprendre la tête de l'armée huguenote et se rétracter de son abjuration en passant par Tours. Un jour qu'il cavalait au cul d'un cerf dans une partie de chasse dans la forêt de Senlis, il en profita pour mettre les bouts. Il rejoignit tranquillement le Poitou, où l'attendaient les troupes calvinistes. En tant que catholique, bien sûr, il n'avait pas été très convaincant. Les hostilités reprennent donc dès 1577. Margot est restée à Paname. Elle ne le rejoindra que plus tard dans le sud-ouest, pour lui adoucir le séjour. Croit-on. Il cassa du catholique à l'Aréole, à Marmande, à Bergerac. Bref, partout où les catholiques avoisinaient les protestants. Jusqu'au jour où le duc d'Anjou, frelot d'Henri III, se casse la margoulette en escaladant le mur d'un couvent de nonnettes. Notre beau Riton de Navarre s'élève alors tout naturellement au rang d'héritier de la couronne et s'achète un chapeau neuf. Henri III, nous précise l'auteur de ce bouquin fantastique, Henri III dut quitter son emploi de roi de Pologne pour devenir roi de France en 1574 à la mort de son frelot Charles IX. Les cathos sont alors furibards. Le duc Henri de Guise, dit le Balafré, l'ex-julot de Margot, qui se prétend descendant de Charlemagne et qui, entre parenthèses, ne cracherait pas lui non plus sur la couronne. Le Balafré, dit-on, a juré de faire tapisser sa malle de voyage avec la peau de Henri IV. Tous ces sacs de nœuds débouchent sur ce qu'on va appeler la 8e guerre civile ou guerre des trois Henri. En attendant, notre Henri de Navarre à Coutras fit une belle décoction à Joyeuse, le mignon de Henri III, qui aura vachement chaud, miche, ce jour-là. Je ne savais pas que Joyeuse faisait partie des mignons de Henri III. Le comte de Joyeuse, qui avait une si belle épouse, nous raconte Robert Merle. Oui, mais cela est une autre histoire. Mais Henri, futur IV, n'a pas encore fini de becqueter son pain noir. Le duc de Guise est adoré du peuple. De plus, il ne peut pas encadrer le roi Henri III non plus. Il a presque le cul sur le trône en cette année 1588 où il se voit d'abord déjà roi de Paris. Mais la couronne est à sa portée. Il le sent. Il se la voit déjà sur la théière. Le bon Riton a tout de même morflé quelques torgnoles dans le sud-ouest. Les cathos lui en ont fait baver un max. Notamment à Cahors, où il fut supplié par ses troupes affamées et épuisées de sonner la retraite. « Il ne sortirait de Cahors, leur répondit-il, que mort ou vainqueur, au cas où on aurait douté qu'il avait du poil aux pattes. » Margot, elle, pendant ce temps, faisait sa guerre des amoureux à la cour protestante de Nérac. Henri, qui venait y savourer le repos du guerrier, se laissait gentiment butiner le macaroni par la belle fosseuse, nom sous lequel on désignait Françoise de Montmorency. Cette dernière, dont le réchaud fumait en permanence, n'était autre que la première demoiselle d'honneur de Margot, qui, l'ayant trouvée elle-même à son goût au lit, l'avait généreusement prêté à son sacré bandeur de mari. Ils avaient fini par s'entendre au moins sur un point. Henri III, lui, de son côté, qui était en train de se casser la gueule de son trône, a fait appel à des détachements étrangers pour conforter son autorité. Et bien sûr, il a provoqué une Bérésina monstre. Et oui, ça faut jamais faire ça. Hein. Je sais pas pourquoi les dirigeants ou les régnants en France ont eu quelquefois cette idée. Ça a coûté très cher à tout le monde. Les parigots, ça leur plaît pas l'herche, les étrangers, sauf pour vider les poubelles. Henri III décarre alors à toute bubure de la capitale, après cette funeste journée des barricades, où l'on s'est copieusement frité l'achetron. À l'heure qu'il est, à l'ATP des rois, il vaut plus un peu de lapin, le troisième Henri. Il n'a plus les moyens d'empêcher le balafré de Guise de lui piquer le trône encore chaud. Ce dernier pourrait d'autant plus s'en emparer illico qu'il a le Parlement pour sa pomme. Pourtant, orgueilleux comme un pou dans la crinière d'un lion, il minaude, il temporise, il sent qu'il est proche du but, mais il veut se morfaler d'un coup tout le royaume. Avec panache! Tout comme le lièvre de la fable qui avait trop attendu, il va se faire baiser au poteau. Le fragile mais rusé Henri III le convoque au château de Blois pour lui filer, lui dit-on, le secret de sa recette de clafoutis aux griottes. Il fait radicalement étriper le balafré par les 45 soldats de sa garde personnelle avant même que l'autre n'ait eu le temps de défourailler son cure-dent. Devant le cadavre du balafré, ce faux cul de Henri III aurait d'ailleurs une phrase digne de Racine ou d'Alphonse Allais : « Il est encore plus grand, mort que vivant. » Le 30 avril, près de Plessis-les-Tours, pour la première fois depuis 13 ans qu'il s'arrache les couettes dans des batailles incessantes, les deux Henri vont tomber dans les bras l'un de l'autre. Pas pour faire la lutte gréco-romaine, non, pour s'embrasser ou faire semblant. Le peuple, lui, crie « Vive le roi !» et même « Vive les rois !» En fait, comme d'habitude, il crie un peu n'importe quoi. Un jour, vive Pétain, le lendemain, vive De Gaulle. Mais ça, c'est une autre histoire encore. La baraka, pour le moment, elle est surtout du côté d'Henri de Navarre. Le matin du 1er août 1589, au camp royal de Saint-Cloud, Henri III, quant à lui, savoure un bol de bouillon tranquillement assis sur sa chaise percée. Il l'ignore, mais c'est son avant-dernière dégustation, car un certain Jacques Clément, moignon ligueux et mal intentionné, lui fait déguster un méchant coup de l'alliole dans le buffet, rendant par ce fait totalement inutile d'amener à terme l'accomplissement de sa grosse commission. Les moustaches en croix sur le carreau, le pauvre Riquet III trouve encore la force de gémir. « Ah, le méchant moine, il m'a tué !» Un roi sur son trône, c'est parfois peu de choses. Mais ce petit roi malchanceux, avant de chanceler sur ses talons aiguilles, avait eu suffisamment de choux pour sceller à Plessis-les-Tours l'unité retrouvée du royaume. Henri de Navarre est donc le successeur naturellement désigné, et la Ligue là dans le baigneur. Le tout-puissant Philippe II d'Espagne fournit alors un max de Grisby et d'arquebuses au duc de Mayenne, qui est plus ligueux qu'un sang de punaise. Philippe II d'Espagne, qui n'a pas que du jus de betterave dans les castagnettes, rêve de chouraver le trône de France pour sa fille Isabelle, petite-fille de Henri II par sa mère. C'est à la fois merdique et tentant pour Henri. Évidemment, ça coince un peu, car jamais les Espingos n'ont été aussi puissants. Par contre, ça pourrait être de la chantilly, because une chier de cateaux français, dont Mayenne, On le traxire de voir les danseurs de flamenco squatter le pays et d'être obligé de briefer du corizo jusqu'à la fin des temps. Le 4 août 1589, à Saint-Cloud, Henri fait écho à cette réaction patriotique du peuple qui n'a l'air d'attendre que lui. Il dit à ses concitoyens « Mes chers petits peloteurs de chapelet, la religion romaine, vous vous gourez bien que pour moi, ça vaut pas une piperade. Cependant, cette foi qui m'est étrangère, je vais faire un effort et essayer un bon coup de me la cloquer dans le citron. Je demande qu'à apprendre. De plus, je maintiendrai les garanties de mes prédécesseurs aux réformés. Ils n'ont pas besoin d'avoir le traxir de finir comme des marrons sur le cul rouge d'une poêle trouée. » On peut voir ici que ce fin stratège ne se mettait pas que les gonzesses dans la fouille. Le duc de Mayenne va se morfler, une sanglante déculottée, à Arques le 21 septembre 1589. Et puis, comme il n'avait pas pigé, le 14 mars suivant, encore une belle mandale sur la poire, à la fameuse bataille d'Ivry. Henri lui fait bouffer son chapeau à plumes en lui disant « Ventre saint gris, mon gars, t'avais qu'à faire comme les autres, fallait te rallier à mon panache blanc. » Malgré le tabac qu'il fait partout, Henri n'est toujours pas roi de France. Il n'a encore pas pu s'embourber Paris. Et la France sans Paris, c'est comme un gigot froid sans moutarde, disait-il amèrement. Il prend un bide devant la capitale, ravitaillé par les espingouins du duc de Parme. Au bout de 4 mois de siège, il en a ras la barboteuse et se tire la queue entre les jambes. Et note de l'auteur, si on croit la légende, ça devait le gêner. En janvier 1591, par ruse, il envoie les assiégeants déguisés en meuniers qui se font virer à coups de pompe dans les noix. C'est la fameuse journée des farines, où Riton, le premier, s'y est fait rouler. Finalement, il va de bide en bide. Il finit par entraver que s'il ne se décide pas d'abjurer de rechef, mais cette fois solennellement, abjurer sa foi, sinon sa couronne, il l'aura jamais. Les croquants en ont ras le fion des guerres ruineuses, des impôts écrasants et de tout le toutim, mais ils veulent un roi catho. Gabrielle d'Estrée, la belle Gabi, insiste lourdement pour que son Riton abjure enfin un bon coup. Elle se voit d'ailleurs assez bien avec une couronne sur le cassis. « Vas-y, mon Riquet, lui dit, nos cochoncetés, on les fera plus dans le péché désormais. On dira tout à Dieu, au vrai, à celui des cathos. Et il nous pardonnera cette bonne blague, il manquerait plus que ça, avec tout ce qu'on a fait pour lui. » Avant d'abjurer pour la seconde fois, Henri avait envoyé une bafouille à la belle Gabrielle. « Ma belle Gabrielle, c'est demain que je fais le saut périlleux. » Plus loin, évoquant les évêques, il ajoute « Ces gens-là m'ennuient. » Comme le remarque si justement ce bon vieil athée de Voltaire, « Ces paroles sont-elles d'un bon catéchumène ?» Finalement, apparemment convaincu par tous, Riquet s'agenouille. Il tombe humblement sur ses rotules. Il jure devant la face du Dieu Tout-Puissant de vivre et mourir en la religion catholique, de la protéger et défendre, encore et contre tous, au péril de son sang et de sa vie, renonçant à toutes les hérésies contraires. Ses potes ont du mal à le croire, voire à le suivre. Ce baratin, il l'a déjà débagoulé devant feu Charles IX et cette vieille araignée de Catherine de Médicis. Le pape n'y croit lui aussi qu'à moitié, après avoir été échaudé une première fois. Mais son éminence, qui n'y va que d'une fesse, le sacre est toutefois célébré à Chartres le 25 février 1514. Paris ouvre enfin toute grande ses portes à Henri le 22 mars suivant. Le tenace duc de Mayenne, qui pige vite si on lui explique longtemps, déguste une ultime avoinée en Bourgogne, à Fontaine-Française, le 3 juin 1595. En mars 98, le coriace duc de Mercœur, farouche ligueur replié en Bretagne, s'écrase enfin mollement. Le 2 mai suivant, le traité de Vervins ramène la paix entre les Français et les Espingouins, qui se mettent à guincher partout ensemble flamenco et java. C'est alors que Riton fit l'un de ses plus beaux coups. Il signa l'édit de Nantes en 1598, par lequel catholiques et huguenots devaient arrêter enfin de se saccager le pif. Il mécontenta, bien sûr, les deux parties. Le bon roi Henri devint alors Henri le mal-aimé. Comme quoi on ne peut jamais contenter tout le monde et son père. Heureusement, il avait deux conseillers des meilleurs, qui étaient loin d'avoir du mou de veau sous le plumet, Duplessis Mornay et le duc de Sully. Bien avant que les paysans n'embouteillassent la capitale avec leurs tracteurs, Sully allégea fortement leurs impôts et déclara tout net que labourage et pâturage étaient les deux mamelles de la France. Et toc, un bon point pour Riton. Ce futé de Sully réussit même à faire payer un impôt à l'Église, oui, oui, ce qui tenait du miracle. Il piqua de même un max de blé aux officiers royaux qui voulaient transmettre leur charge à leurs descendants, avec un nouvel impôt qu'il appela la Paulette. Résultat, prospérité. On bâtit à Paris le Pont-Neuf, la place des Vosges, cette merveille, et l'hôpital Saint-Louis. Ça vaut largement l'Arche de la Défense. Le premier mariage de Henri fut annulé. Ça collait pas du tout avec Margot, qui avait un nid de frelons sous le vertugadin, c'est-à-dire la crinoline, et une fâcheuse tendance à l'occasion d'appliquer les vieilles leçons de Messaline. Messaline, faudra que je vous la fasse un jour. Il l'épousa l'Italienne Marie de Médicis, dont le principal mérite fut d'avoir ramené dans sa corbeille de mariage 10 kilos de faillots d'Italie, les fagioli, pour faire des cassoulets à son mec. Elle lui tricota aussi un beau lardon qui devint plus tard Louis XIII et qui eut lui aussi sa page d'histoire, faut bien dire. Infatigable sur l'oreiller, Riton, toujours insatisfait, y faisait se succéder des maîtresses plus volcaniques les unes que les autres. Toutes adoraient l'osier et les colifichets, qui mettaient le pays dans la mouscaille. La dernière fut Charlotte des Essarts, dite Lolotte les doigts fins, pour qui le bon Riquet faisait les pires des folies, ce qui avait le don de foutre la reine en pétard, et le pays y tout. Le 14 mai 1610, un obscur petit greffier de tribunal allait devenir célèbre à tout jamais. Il amplifia du coup considérablement la gloire de celui qu'il allait assassiner. Il s'appelait François Ravaillac, avait un laguiole bien aiguisé et s'en servit allègrement contre le bon roi Henri, qui, pour son malheur, n'avait, lui, que de mauvais chirurgiens et pas encore d'antibiotiques dans son armoire à pharmacie. Voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à vous acheter un dictionnaire de la langue verte. Parce que si je vous traduisais chaque mot d'argot, eh ben on sera encore là demain matin. Alors j'espère vous avoir fait sourire un petit peu. Et puis je reviendrai, je crains de devoir revenir à ce bouquin fantastique, Les grandes pointures de l'histoire, donc de Pierre Perret, édité au Cherche Midi. On se fera une merveille de Pierre Perret chaque fois qu'on aura besoin de sourire un peu. Il risque d'y avoir quelques occasions. Mais heureusement qu'on a Pierrot. Prenez soin de vous. À bientôt.